Potter. Saturno non te fa pas le bruit. Saturno.
Saturne.
Saturne, ici c'est Saturne. J'attends. Bon.
Action.
Kinopsis. L'actualité du cinéma sur votre radio locale.
Calade. Ma radio.
Bonjour, c'est Kinopsis, une fois par mois, l'actualité du cinéma, nos envies, les films qui vont sortir. Alain est avec nous, salut.
Bonjour.
Alain. Et aujourd'hui, on a un invité.
Rodolphe.
Rodolphe, que je te laisse présenter, Alain.
Est-ce qu'on doit présenter Rodolphe?
Évidemment,
Rodolphe, tu ne le présentes plus. Voilà, Rodolphe, c'est une institution locale. Rodolphe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre émission Kinopsis. Tu es anciennement directeur de la salle des 400 coups.
Oui, 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 c'est ça, oui.
Voilà. Maintenant, tu n'es plus actif dans cette salle. Voilà, ouais. On viendra tout à l'heure, on aura un échange pour évoquer en quoi consiste ton rôle dans les 400 coups. Peut-être faire un petit peu, c'est un peu dur peut-être comme mot, mais d'historique de la salle. Parce que cette salle des 400 coups, c'est une institution, aussi bien à Villefranche, mais dans tous les environs.
Ok, on voit ça dans quelques minutes. Le temps pour toi, Alain, de nous présenter les sorties du mois.
Alors, les sorties du mois, ben, comme tous les autres mois, il y en a beaucoup. C'est entre 80 et 90, peut-être, hein, comme d'habitude. Il y en a qui sont déjà sortis. On n'a pas tout vu, hein. T'en as vu beaucoup ?
Oui, oui, bah, comme toi.
D'accord. Bon, donc il y en a par contre qu'on aurait aimé voir, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est par exemple Mickey 17, donc de Bong Joon-ho. Il y a aussi le système Victoria, qu'on n'a pas vu, mais qui, moi, m'intéresse dans le sens où c'est tiré d'un bouquin et que j'avais lu le bouquin et qui était très bien. Il y a le film Black Dog. Il y a aussi une comédie musicale. Mais tu sais que je ne suis pas très comédie musicale. Toi, tu préfères ?
Ça dépend des musiques.
Oui. Ouais. Et là, c'est dans la cuisine des Nguyen. Mais je l'ai vu, en fait, cette comédie musicale. Oui, oui. Ouais. Et bah, c'est pas mal. Il y a de l'humour, mais ce n'est pas ma tasse de thé, comment dire. Et sinon, il y a Anna. Et là, ça, j'ai bien aimé. On en parlera tout à l'heure.
On va en parler, oui.
Il y a aussi Black Box Diaries qu'on passera au singulier à Belleville en Beaujolais pendant le festival du film japonais.
Duquel voilà. On reparlera dans quelques minutes aussi. Ça, c'était les sorties du mois. En as-tu d'autres ?
Ah oui, 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 bien sûr. Il y en a, là, je suis qu'à la moitié. Là.
Bougre. Excuse-moi, j'avais pas ouvert ton micro.
Non, je disais, il va nous dire les 90.
Hein, ah non, là, non, vous avez de la chance parce que j'ai la liste. Hein. J'ai les noms. Il y a les Baudins.
Oui, bah super.
Ça suscite beaucoup d'intérêt. Si, si, c'est vrai.
C'est une suite. C'est une suite.
Oui, les Baudins partent en vrille, ça s'appelle. On risque de partir en vrille si on en parle, donc je vais pas en parler.
Est-ce qu'il faut encore se méfier de la comédie en général? Est-ce que ne pas dire du bien des Baudins, ça fait partie de cette appréhension qu'on a, allez, on va dire en France, mais ailleurs, je crois que c'est pas mieux, cette appréhension qu'on a à parler de la comédie. On la juge d'abord négative, puis parfois on se dit qu'elle est peut-être regardable.
Mais il y a beaucoup de comédies qui peuvent se regarder. Et puis il y en a d'autres où c'est très particulier. Moi, je ne suis pas je suis pas fan de ce type de comédie.
D'accord.
Mais oui, moi, j'aime bien les films de comédie. Mm-hmm. La preuve, dans La cuisine des Nguyen, c'est une comédie.
C'est une comédie.
Et on s'amuse bien quand même. Voilà, je n'ai pas de titre en tête. Mais...
Rodolphe, tu as quelque chose à dire sur les
Baudins? Ah oui, non, moi, au contraire, j'ai aucun a priori contre les comédies. Après, c'est difficile d'en parler quand on l'a pas vu, quoi. Donc, après, on connaît l'univers parce que là, c'est une suite, donc on connaît un peu l'univers des Baudins. Mais ça faut éviter. Enfin, je veux dire, quand on est cinéphile, on reste ouvert, hein, parce que si on commence à s'auto-censurer, à dire bah ça, non, je pense qu'il faut. Mais bon, c'est vrai que d'emblée, j'irai pas le voir parce que il y a tellement d'autres films
à voir.
Que j'ai envie de voir prioritairement, que voilà, je ferai l'impasse sur celui-là, bien sûr.
Et puis, il y a un public. Hein. Il y a un grand public, même bien sûr, les Bodins. Oui. Le premier avait été un succès. Je pense que le deuxième, ça devrait l'être aussi.
Les gens ont envie de se marrer, c'est sûr. Ouais.
Donc après, il y a aussi à signaler Aïcha, on en reparlera tout à l'heure. Il y a Au pays de nos frères qu'on avait reçu en avant-première. On avait reçu le réalisateur, donc c'était Ali Reza Ghassemi. On en reparlera. La sortie a été décalée au mois d'avril. Il y a aussi un film roumain qui s'appelle Libertat. Je crois qu'on a fait le tour.
Okay. Hein.
Ah si, il y a d'autres films, excuse-moi. Ouais.
Oui.
Et donc, c'est Lire Lolita à Téhéran. Ah, on évoquera ça tout à l'heure. Et Aimer perdre.
D'accord. OK.
Kinopsis.
Coupé, celle-là est très bonne. C'est la meilleure.
On passe aux envies, Alain.
Oui, les envies. Alors, les envies, en fait, c'est plus un hommage à Michel Blanc, parce qu'il y a un film qui sort dans lequel il a, bien sûr, il est là, il est présent, c'est La Cache. Donc, il sort le 19 mars. Je ne connais pas le film, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu non plus ?
Non.
Tu l'as vu, Rodolphe ? Non.
Non.
Voilà.
Non.
Donc, je veux pas... Mais ce qui était important, je pense, c'est de parler de ce film. Moi, j'irai le voir certainement parce que c'était un acteur qui était intéressant, que j'appréciais, avec une diversité dans ses rôles et qui était vraiment étonnant, de la comédie au drame. On a tous ces films, ces titres de films en tête. Voilà, j'ai juste signalé ça. Et puis l'autre envie, c'est Mickey 17. Alors lui, il est sorti, Mickey 17. Je ne l'ai pas vu. Donc, c'est un film attendu donc, de Bong Joon-ho. C'est, souvenez-vous, c'est un cinéaste sud-coréen qui a fait Parasite. Et Parasite, ça a été en 2019. Ça a été un grand succès. Il a tenu l'affiche. Et il a tellement tenu l'affiche qu'ils en ont fait une version noir et blanc après, qui a aussi tenu l'affiche. Donc, c'était vraiment intéressant. Et puis, il a fait aussi Snowpiercing. C'est en 2013. Donc, c'est une adaptation, Mickey 17, c'est une adaptation d'un roman. Et en fait, l'histoire, c'est l'histoire qui se déroule dans un futur lointain où l'humanité cherche à coloniser des planètes lointaines. Et le protagoniste, c'est Mickey Barnes, qui est expandable, c'est-à-dire un employé sacrifiable dont la mission est de réaliser des tâches dangereuses pour une mission d'exploration sur une planète glacée. À chaque fois qu'il meurt, son corps est régénéré, sa mémoire transférée dans un clone. Donc, tu vois, on n'a pas de souci à se faire.
Non,
ça arrive, hein, les progrès de la science. Et donc, il y a un processus qui permet aux expéditions de minimiser les pertes humaines.
Alors, ce que je te propose, c'est peut-être d'écouter une partie de la BO du film dont tu viens de parler. We'll be right back. Voilà donc pour la musique de Alain
Mickey 17.
Mickey 17, donc.
Le titre s'appelle Set Off.
Et c'est d'un certain Young Yael. Voilà.
Rodolphe, on va revenir sur l'origine, 400 coups. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu comment a démarré cette histoire ?
Oui, le départ, donc c'est, on a ouvert les 400 coups le 18 septembre 1991. Mais c'était suite à la. C'était une réouverture, en fait, puisque précédemment, c'était déjà un cinéma. C'était un cinéma Utopia. Ça s'appelait un cinéma Utopia parce que c'était une espèce de franchise, enfin de plusieurs salles qui sont principalement dans le sud de la France. Et puis ça n'a pas fonctionné. Ils sont restés en place pendant 2 ans et ça n'a pas fonctionné. Et donc le cinéma, le bâtiment, le cinéma en tant que tel était quasiment tout neuf et était déjà fermé. Donc c'était un peu catastrophique. Je rappelle que les murs appartiennent à la ville de Villefranche. Donc c'était un peu catastrophique. C'était une opération qui avait été vraiment un fiasco. Ensuite, il y a eu donc une association qui s'est créée, une association de cinéphiles, comme quoi les associations de cinéphiles sont quand même très importantes, parce qu'elle a fait pression, elle a fait un petit peu elle a joué du tam-tam pour rameuter la foule, pour essayer de rouvrir ce cinéma. Donc l'association s'appelait et s'appelle toujours L'Autre Cinéma. Cette association de cinéphiles qui accompagne ce ciné depuis 30 ans.
Donc ça veut dire que c'est toujours la même asso qui gère guillemets le cinéma.
Alors c'est pas elle qui gère le cinéma, elle accompagne, on va dire, elle accompagne le cinéma, elle ne le gère pas. Il y a donc eu un professionnel qui est arrivé, donc moi j'étais le directeur, et on a rouvert ce cinéma, donc le 18 septembre 91. Et alors, si on se souvient, en 91, enfin le début des années 90 jusqu'à 93 où il y a eu une reprise, c'était vraiment le fond du trou. Hein, on était vraiment en termes de fréquentation, enfin les gens n'allaient plus au cinéma, c'était vraiment la chute vertigineuse vers la fermeture des cinémas, hein, tout simplement, comme ce fut le cas pour l'Utopia qui a fermé un peu avant 90. Donc là, c'est l'histoire, mais après, il y a eu une reprise, disons, qu'on a réouvert le cinéma en se disant, bon, est-ce combien de temps on va tenir, 2 ans, 3 ans, puis on va à nouveau fermer. Puis en fait, bon, le contexte a changé, les Français sont revenus au cinéma, et bon, le cinéma existe toujours, il est toujours là.
D'accord. En quoi consiste le rôle d'un directeur de salle ?
Oula, ça c'est vaste, hein, oui, parce que c'est... Ça peut aller de remplacer une ampoule à négocier avec les distributeurs, à aller dans les projections à droite à gauche, à regarder les liens, c'est-à-dire les films en mode privé chez soi la nuit.
Une petite précision pour les auditeurs. Quand tu parles de distributeurs, on peut préciser de qui il s'agit ?
Oui, alors pour donner les rouages du cinéma en général, il y a 3 rouages. Il y a la production, le producteur, celui qui fait exister le film, qui le finance, qui rassemble les talents pour le faire exister. Et ensuite, une fois que le film existe, il faut pouvoir le diffuser sur les territoires. Donc en l'occurrence, par exemple, nous, c'est la France. Donc il faut pouvoir le diffuser dans les médias existants, donc les salles de cinéma. Donc là, il faut un rouage qui s'appelle la distribution. Donc les distributeurs, ce sont des sociétés qui distribuent un film en essayant de le distribuer le plus largement possible dans les salles.
Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec le livre ?
Oui,
les distributeurs, ce serait l'éditeur, c'est ça, pour la littérature ?
Oui, en quelque sorte, sauf qu'il n'y aurait pas le rouage précédent. Le producteur, ce serait l'auteur.
L'écrivain.
Ouais.
Bien.
Et donc, tu n'étais pas tout seul, il y avait une équipe, tu gérais une équipe avec toi.
Oui, bien sûr, une équipe très, très réduite, mais une équipe quand même.
Ouais.
Ouais, ouais. Oui, parce qu'on n'est pas... Enfin, du temps où j'y étais, là maintenant, ils sont un petit peu plus nombreux, mais on n'est pas nombreux. Hein. Mmh. 400 coups, c'est une équipe très, très réduite, parce que... On ne peut pas embaucher plus que ça. C'est une économie très fragile, hein, le cinéma RSC. Il n'y a pas les entrées annexes, c'est-à-dire la confiserie. Au 400 coups, il n'y a pas de pop-corn, il n'y a pas de confiserie, il n'y a pas de boisson.
Tu viens de prononcer art et essai. Tu peux préciser là encore ?
Art et essai, c'est un label, en fait. Hein, c'est un label d'un cinéma qui programme des films qui sont labellisé comme tel. C'est-à-dire qu'un film, il a le label RSA ou il ne l'a pas. Donc, en l'occurrence, aux 400 coups, 100% des films qui sont diffusés, programmés, sont à RSA.
100%.
Ah oui, enfin bon, il y a peut-être une exception de temps en temps, quand il y a une séance exceptionnelle d'un gros film comme le Comte de Monte Cristo qui a dû avoir lieu récemment, mais là c'est pour faire événement, mais sinon c'est, on va dire, allez, 97%. Okay.
Et parmi ces critères, les plus importants sont lesquels ?
Bah, la qualité, en fait. La qualité, c'est vraiment ce qui compte. Il faut que ça nous plaise. Enfin, bon,
oui, moi, je fonctionnais comme ça, mais
ça fonctionne toujours comme ça.
C'est
complètement subjectif.
C'est subjectif, on est bien
d'accord. Ah oui, il n'y a pas d'échelle, enfin, il n'y a pas d'étalon maître pour dire tel film vaut mieux que tel autre. Hein.
On aurait tort de dire que le cinéma d'Arrêt d'essai est un cinéma à message ou...
Non, c'est pas un cinéma à message, parce qu'il y a des films de genre purement récréatifs, on va dire, mais ils sont quand même
c'est la facture qui
apporte. Ouais, tout à fait.
Ça
ouais,
peut même être des films grand public. Oppenheimer est le label RSA.
Bah ouais, c'est franchement un film d'auteur pour moi, parce que là c'est un film très grand public, mais enfin c'est un défi d'avoir fait ce film là comme un blockbuster qui parle de physique nucléaire, enfin de choses comme ça. Enfin bon, pour le grand public ça peut être un peu effrayant, mais bon, finalement, ça a bien fonctionné, tant mieux. Ouais.
Je vous rappelle que vous écoutez Kinopsis sur
Calade Ma Radio 100.9.
Pour 100.9. Nous sommes avec Rodolphe, ex-directeur des 400 coups. Alain, tu avais une autre question, peut-être, avant que je lance un petit jingle.
Non, j'attendais la musique, moi.
Eh bien, écoute, on va y aller tout de suite sur cette musique. Regarde, écoute ça.
Coupé. Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy.
Retrouvez votre émission Kinopsis en réécoute sur radio-calade.fr.
Calade, ma radio.
Moi, j'avais une question à poser à Rodolphe. Depuis quand tu aimes le cinéma ? Parce qu'il faut aimer le cinéma pour faire ce que tu veux faire.
Oui, bien sûr. Bah là, c'est indéniable.
Hein. Ah oui.
Oui, oui. Depuis que je suis ado, en fait.
Et ton premier film, tu as un souvenir de ton premier film ? Celui qui t'a...
Oui, bien sûr. Ouais. C'est King Kong. King Kong,
lequel ?
De Cooper et Chutzak, hein, le 33, parce que les autres n'étaient pas sortis, évidemment, les remakes. Donc, que mes parents m'avaient... Alors, j'étais petit, hein, j'étais tout petit, c'était à Lyon. Et rue Paul Bert, un cinéma qui n'existe plus depuis fort longtemps, mais et ça m'avait vraiment impressionné, quoi. Mais ça m'a marqué à tel point que j'ai pas voulu le revoir, ce film, jusqu'à mes 40 ans, en fait, parce que ça m'avait tellement marqué, traumatisé presque.
Traumatisé.
Ah, ouais. King Kong, là.
Cette grande marionnette.
Non, mais pour moi, c'était plus que réel. Hein. Il prenait les pygmées là dans ses mains, il les écrasait dans les mains et tout ça,
Oui, c'est ça. Ouais.
Waouh, ça m'avait.
Mais c'est un beau film. Cette robe blanche dans une main de gorille énorme.
Je savais que tu allais parler d'elle, Alain, je savais.
Oui, il a plus regardé l'actrice que le gorille. Hein.
Sa robe blanche.
Oui, mais il commençait un petit peu à, si tu te rappelles bien, à l'effeuiller un petit peu. Là,
oui, comme ça. Un petit peu.
Hein, oui.
Et comment on programme les films aux 400 coups. Comment programmer les films aux 400 coups ?
C'est du relationnel, en fait. C'est un métier de relationnel, c'est un métier de parole donnée. Il n'y a pas de contrat. Hein. Donc, on appelle en amont tel ou tel distributeur, sachant qu'il a tel ou tel film, et en disant, ben voilà, moi, ce film, j'ai vraiment envie de le passer, ça m'intéresse. Et là, c'est des tractations, parce que sur les films plus importants, ben, ils essayent de poser certaines conditions plus ou moins contraignantes, nombre de séances, nombre de semaines qu'on va jouer, etc. Non, donc c'est ça, après, c'est des négociations, mais bon, on s'entend toujours très bien avec eux. Enfin, voilà,
parce qu'il y a des contraintes qu'il faut rappeler aussi. Lorsqu'on programme un film en sortie nationale, la contrainte, c'est un nombre imposé
de séances.
Donc ça, c'est
tous les
aussi,
jours.
Oui, chaque jour.
Ah, oui.
Et ça, c'est pas rien, parce que quand on a une seule salle ou deux, et c'est le cas à Belleville, entre autres, pour le singulier, quand il n'y a que deux salles, on a envie de programmer beaucoup, beaucoup de choses, et puis on est contraint par les distributeurs, ce que je comprends par ailleurs, évidemment. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle les multisalles se multiplient.
Oui, oui, c'est ça. Mais, oui, c'est devant l'offre. Effectivement, il faut pouvoir proposer des écrans qui permettent de diffuser toute cette offre. Donc, après, c'est des choix. Hein. Il faut la programmation, c'est des choix en fait. C'est-à-dire de ne pas prendre des films, c'est un choix. En prendre d'autres, c'est un choix. Donc, à un moment donné, de toute façon, on ne pourra pas tout proposer. Donc, il faut choisir en fonction de, pour employer un mot un peu ronflant, mais bon, d'une ligne éditoriale.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, ça s'appelle depuis l'origine Les 400 coups. Comment est venu ce nom de cinéma?
On avait fait une petite réunion pour réfléchir à quel serait le nom de ce cinéma. Moi, j'avais avec moi deux ou trois membres de l'autre cinéma, les membres fondateurs à l'époque, qui ne sont plus là pour certains, malheureusement. Et donc, on réfléchissait. Puis quelqu'un a dit à un moment, on pourrait faire un hommage à un grand cinéaste français, par exemple Truffaut, on l'appellerait le Truffaut. Alors, moi j'ai dit oui, c'est bien, mais bon, c'est pas très original. Peut-être qu'on pourrait faire autre chose. Et puis, donc en Truffaut, je me suis dit, son premier film, Les 400 coups, j'ai dit, Les 400 coups, pourquoi pas, c'est plus original. Et là, ça a plu à tout le monde, et voilà, c'est resté Les 400 coups.
C'est devenu une référence, hein, Les 400 coups,
oui,
sur
oui,
la
oui.
région.
Oui, tout à fait. Ah oui. Sur Villefranche, sur la région. Et quand on parle à des cinéphiles ou des gens qui vont régulièrement au cinéma, ils disent je vais au Comédia, mais je vais aussi au 400 coups. Ouais. Voilà, c'est le 400 coups, c'est le Comédia de la région. Et c'est vrai que c'est devenu une institution, en fait, en quelque sorte.
Surtout pour un cinéma qui devait. Enfin, nous, en interne, moi, en mon fort intérieur, je voyais bien que ça allait être vraiment compliqué et que ça allait être très dur de tenir quelques années. Et puis en fait, oui, ça fait maintenant 34 ans. Quoi.
C'est pas rien. Hein.
Belle
c'est
histoire. Rien.
Je vous propose un petit intermède musical avec une partie de la BO du film Prima La Vita. Il s'agit de Neil Young avec son fabuleux My My.
Thank you.
Voilà pour Neil Young, excuse-moi, je t'interromps. On est toujours, vous êtes toujours sur Radio Calade. Non, ce n'est pas Radio Calade, je me trompe une fois de plus. C'est Calade Ma Radio 100.9. On est en compagnie de Rodolphe, ex-directeur des 400 coups. Alain, je crois que tu avais une question à lui poser à nouveau.
Oui, alors on va un petit peu évoluer, on va un petit peu changer. Donc ça, c'était avant. Voilà, on a fait un petit peu d'histoire. Maintenant, tu es plus dans l'institution, on va dire. Tu es plus dans les 400 coups, mais ça n'empêche pas que ça continue à te passionner.
Oui, oui. Et donc... je suis toujours au CA, on va dire. Et puis maintenant, je suis membre de l'association cinéphile partenaire L'Autre Cinéma.
D'accord. Et tu as donc un projet que tu es en train de mettre en place avec les 400 coups qui est un festival du film italien. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, bah là, il est déjà bien avancé puisqu'on est en plein dedans. Donc, ça a démarré le 28 février et c'est jusqu'au 18 mars. Et donc, on a appelé ça, on a fait très simple, hein, ça, c'est très parlant, Italia Cinema, en un seul mot, bien sûr, parce que Italie et cinéma, bah, l'Italie c'est un pays de cinéma quand même, hein. Et surtout c'est une cinématographie qui est très très appréciée des Français depuis, c'est une histoire d'amour entre les Français cinéphiles et le cinéma italien depuis longtemps, depuis l'après-guerre en fait, depuis Rossellini. Oui. Rossellini c'est vraiment le cinéaste marquant d'après-guerre qui a influé toute une génération, c'est le néo-réalisme.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle des acteurs français ont souvent joué dans les films italiens?
Ah oui, parce que justement, il y avait un tel amour des cinéphiles, mais donc les cinéphiles, bah, les producteurs sont des cinéphiles, donc ils se sont rapprochés à la fin des années 50 des producteurs italiens, et c'est la belle époque, les années 60, 70 jusqu'à 80, des coproductions franco-italiennes en fait, et avec donc des échanges d'acteurs italiens qui venaient en France, de Français qui allaient en Italie, etc.
Le Guépard en fait partie ?
Ah ben, le Guépard, il en fait partie, bien sûr, mais il y a plein de chefs-d'œuvre qui en font partie, quoi. Donc,
Alain Delon, dans un film dans les années précédentes, dont le titre m'échappe, c'est
Rocco et ses frères. Un chef-d'œuvre. Voilà, donc rester sur cette dynamique et puis essayer de proposer un focus, alors modeste, hein, parce qu'il y a 5 films, mais il y a moins de films italiens qui sortent qu'avant maintenant. Donc 5 films de cette année, dont un de patrimoine, mais 4 films de l'actualité, dont un documentaire, enfin voilà, une sortie nationale, une avant-première, voilà.
Tu peux nous donner quelques titres ?
Oui. Alors pour le documentaire, c'était un pays de résistance en français. Donc on a eu la cinéaste qui est venue le 4 mars, Chouaïello. Ensuite, il y a la sortie nationale, donc ça c'est, on s'est calé sur cette date-là parce qu'il y a le 12 mars, donc c'est aujourd'hui, Partenope, donc le film de Paolo Sorrentino qui sort, donc voilà, ça c'est un gros film.
Vous avez entendu l'accent parce que on l'appelle le Rodolphe, mais c'est Rodolphe Donati.
Voilà, c'est le film de Sorrentino. Ensuite, on a passé un film en avant-première qui s'appelle Familia et... On a fait un accompagnement plus là convivial avec un buffet qui suivait la projection parce que c'est sur un sujet assez lourd et donc c'était bien de pouvoir décompresser un petit peu après ce film donc qui sortira en avril. Et puis la dernière, alors on avait aussi Prima la vita, donc dont l'extrait le morceau de qui est pas un titre original du film, hein, puisque c'est Neil Young,
c'est Hey, Neil Young. My. Ouais.
Donc c'est un titre bien plus ancien, mais qui est repris dans le film en fait, ouais. qui sert de contexte au film.
Quel beau film.
C'est un beau film, hein, ouais, qui est un hommage au cinéma en fait, et puis à un cinéaste, Luigi Comencini, ouais. Donc qui est un cinéaste qui a marqué toute une génération, la nôtre sûrement. J'imagine, ouais. Voilà, par sa description du monde de l'enfance, parce que c'était un des plus grands cinéastes de l'enfance en fait. Et, Et c'est son enfant qui parle de ça. Donc son enfant, sa fille, Francesca. Voilà, c'est un beau film intime sur leur relation très, très belle et aussi complexe, bien sûr, c'est normal. Et puis le dernier film donc, qui fera l'objet d'un accompagnement spécial, ce sera demain, jeudi 13 mars à 20h. C'est Le Terroriste. Ça, c'est un film de patrimoine. C'est un film de 62, très rare en fait, très rare, tout simplement pour la raison que les copies avaient été perdues. Et là, la productrice, enfin, la personne qui détient les droits de ce film, qui s'appelle Patricia Barzanti, viendra nous parler de l'exhumation. Elle a retrouvé des copies, enfin, elle a retrouvé des bobines qu'elle a fait restaurer. Enfin, ça a été un jeu de piste, une enquête incroyable. Elle va en parler très bien. Puis c'est un film historique, puisque ça parle de la résistance, enfin, la résistance dans la ville de Venise en 43.
Ah oui.
Avec le tout jeune Gian Maria Volonté à l'époque.
Oui, d'accord. Si moi j'avais une chose à demander aussi, ou à me faire confirmer, le cinéma italien des années 50-60, c'est un cinéma essentiellement social.
Pas que, parce qu'il y a... Alors justement, c'est très 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 vaste, hein, le cinéma italien, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de cinéma de genre, en fait. Ah. Puisqu'il y avait les péplums, ça a commencé par les péplums, les grands péplums.
J'oubliais.
Après, il y a le western italien, il y a quand même 300-400 westerns italiens.
J'oubliais également.
Ah oui, mais il y a aussi les poliziotti. En France, on appelle ça la série noire, mais là-bas, c'est les poliziotti, les polars italiens.
Oui, superbe.
Il y a aussi des films fantastiques. Enfin, il y a toute une veine de films. Les films d'horreur, il y a eu beaucoup, beaucoup de films d'horreur. Les Lucio Fulci, Mario Bava. Enfin, il y a vraiment Dario Argento. Enfin, il y en a pléthore. Ah. Et aussi, les films sociaux, bien sûr, de Elio Petri, de tous ces films. Mais il y a aussi les grands maîtres. Les Pasolini, les Fellini, les Visconti, les Antonioni. Enfin... C'est une période unique qui ne se reproduira plus dans le cinéma.
Ouais, merci pour ces précisions, Rodolphe.
Coupé. Oh merde.
C'était bien.
C'était pas mal, mais on va essayer autre chose.
Kinopsis.
Voilà, vous êtes toujours en compagnie de Kinopsis avec Alain qui n'est pas aux manettes et Rodolphe, notre invité. Alain, avais-tu une autre question à poser à Rodolphe ?
Oui, parce que Rodolphe a plein d'autres activités.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, et il y en a une aussi toujours dans le cinéma qui est un vidéoclub que tu animes plusieurs fois dans l'année. Et si tu pouvais nous en parler.
Oui, voilà, très rapidement, oui. Enfin, moi, j'appelle ça un ciné-club, en fait, parce que c'est quelque chose qui doit nourrir la cinéphilie, mais à un niveau modeste, hein, mais c'est pas péjoratif. C'est au niveau de mon village, à Montmerle. Et donc, chaque année, on fait un cycle. Alors, c'est un cycle de 3 films seulement, parce qu'on n'a pas les moyens de payer les droits pour plus de films, malheureusement. Sinon, ce serait avec joie. Voilà, et l'an passé, on a fait... un cycle sur la comédie fantastique feel-good movie américaine avec des films comme Un jour sans fin, La rose pourpre du Caire ou La vie est belle de Frank Capra. Et puis cette année, c'est j'ai appelé ça Femme, Femme, Femme. Et donc 3 films qui abordent avec des personnages de femmes forts. Donc on a commencé avec le film de Mike Lee, Vera Drake. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film.
Oui.
Voilà, Vera Drake. On a continué avec La Rumeur, qui est un film de William Wyler, qui est avec Audrey Hepburn et Shirley MacLaine, qui est un très beau film de 61 en noir et blanc, un très beau noir et blanc sur un thème très très fort. Et puis on va finir avec Bagdad Café, bon, qui est sur une histoire d'amitié entre deux femmes, une femme qui est là, qui est étrangère, qui arrive d'Allemagne, et puis une femme... noire américaine
avec une très très belle musique.
Oui, la chanson qu'on a chanson en tête, voilà, qui a été un tube dans les années, en 86, puisque le film est de 86.
C'est un beau film. Alain, on va passer la musique de The Brutalist. Je vais pas arriver à le dire. Tu avais un mot à dire sur le film, peut-être?
Non. Tu peux y aller. Passe la musique.
Ok, c'est parti. Thank you.
On continue sur l'Italie avec le film Anna. Et donc, ça a été réalisé. Alors, je n'ai pas l'accent, hein, Rodolphe, tu me corriges. C'est Marco Amenta, c'est ça ? Voilà, donc il est sorti le 5 mars et ce film se déroule sur l'île de Sardaigne. Et ça nous plonge dans l'histoire assez poignante d'une jeune femme, donc Anna, qui se bat pour protéger la ferme familiale, menacée par un projet touristique de grande envergure. Une œuvre à la fois touchante et revendicative qui dépeint les luttes personnelles et sociales d'une époque où le destin des petites communautés se heurte aux aspirations du progrès. Alors le progrès, en l'occurrence, ça se...
C'est du béton.
C'est du béton, voilà. Donc le personnage d'Anna est interprété par la comédienne Rosa Asté.
Non, je ne connais pas,
cette, connais comédienne, pas cette comédienne. Non, non. Elle est donc, c'est elle qui porte le film, hein, comme on dit. Cette dernière livre une prestation vraiment saisissante, pleine de nuances, d'émotions, mais aussi de force et de violence. Son personnage est une jeune femme déterminée et résiliente, devient le symbole d'un combat universel contre les forces qui écrasent les vies rurales pour le profit économique. Donc à travers son interprétation, Rosa Asté parvient à capturer toute la complexité de ce personnage, oscillant entre espoir et désespoir, courage et aussi fragilité.
Autant de raisons d'aller voir le film, donc.
Oui, tout à fait. Et en plus des personnages, des acteurs, de la force du casting, il y a aussi le paysage de la Sardaigne. Alors la Sardaigne, pour situer, c'est la petite sœur de la Corse, ou la grande sœur peut-être, parce qu'elle est peut-être plus grande, enfin je ne sais pas trop. Mais la Sardaigne, c'est une terre de tradition et de beauté naturelle, et mise en valeur de façon impressionnante dans le film. Le directeur de la photographie, donc Giovanni Lorusso, filme les paysages avec une précision poétique qui sublime chaque scène. La lumière douce des matinées sardes et les vues imprenables sur les montagnes et les côtes viennent renforcer le côté intime et authentique de l'histoire. Les spectateurs sont transportés au cœur de la vie insulaire, créant ainsi un contraste frappant entre les forces extérieures qui veulent l'anéantir.
Eh ben dis donc, si avec tout ça, on ne va pas voir le film.
Alors, le film soulève des questions, hein, bien sûr, profondes sur la modernité.
Je la refais, eh ben dis donc, si... Ouais, je...
Parce qu'il y a forcément d'un côté Anna qui se bat pour son exploitation.
Dont tu n'as pas rappelé qu'elle garde ses chèvres initialement. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Film. Ah oui, oui, tout à fait. Un superbe troupeau de chèvres.
Voilà.
Oui, oui, il y a une relation très forte avec ses chèvres, tout à fait. Et donc elle vit de la vente du lait, hein. Elle ne les amène pas à l'abattoir, c'est le lait qui est intéressant. Donc l'exploitation du territoire et la résilience humaine face à l'injustice. Si l'histoire est indéniablement touchante et portée par des enjeux écologiques et humains forts, certaines critiques estiment qu'il manque parfois de susceptibilité. Certains y voient un discours moraliste un peu trop appuyé. La structure narrative prévisible et linéaire semble également dessiner un chemin un peu trop balisé pour un sujet aussi complexe. La décision d'Anna, même si elle semble juste et pleine de conviction, manque de profondeur nécessaire pour captiver totalement l'attention du spectateur.
Bon, mais on ira le voir quand même. Hein.
Oui, on ira le voir quand même. Donc, de toute façon, la réception du film par le public a été globalement positive, notamment par sa capacité à aborder des thèmes universels avec sensibilité et une mise en scène réfléchie. De nombreux spectateurs ont salué la présence de Rosa Asté, qualifiant son rôle de véritable révélation.
Et je vous rappelle que vous êtes toujours sur Calade, ma radio, 100.9, avec Alain qui avait aussi d'autres films qu'il a aimé à narrer.
Oui, alors là aussi, c'est autre lieu, mais une autre femme toujours, autre héroïne, hein, comme ça. Ouais, personnage principal. D'un côté, la Sardaigne, et de l'autre côté de la Méditerranée, on trouve Aïcha. Et Aïcha, ça se passe en Tunisie. Donc, c'est réalisé par le réalisateur tunisien Mehdi Barsaoui. Et donc, ça sortira le 19 mars, c'est-à-dire dans quelques jours.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine. Donc, un drame poignant, inspiré d'un fait divers réel. Inspiré, hein. Donc, explore la transformation d'une jeune femme en quête d'émancipation, pardon, je bégaye, au sein d'une société tunisienne en mutation. Après avoir été présentée en avant-première à la Mostra de Venise l'année dernière. Donc Aïnicha s'annonce comme une œuvre marquante du cinéma maghrébin contemporain. Le film suit Aya. Alors Aya, Aïcha, vous allez comprendre pourquoi. Alors on suit Aya, une jeune femme d'une vingtaine d'années, vivant dans le sud de la Tunisie, enfermée dans une existence sans perspective. Et un accident tragique lui offre une opportunité inattendue. Alors qu'on la croit morte lors d'un accident, elle décide de s'emparer de cette occasion pour changer d'identité et s'installer à Tunis, loin de son passé. Donc ce voyage intérieur et physique l'amène à se confronter à de nouveaux défis et à redéfinir sa place dans la société où les femmes doivent encore se battre pour leur autonomie.
Fort bien.
L'intrigue d'Aïcha, parce que Aya devient Aïcha à l'occasion de cet accident, trouve son origine dans un fait divers survenu en Tunisie en 2019. Et c'est ça qui a touché en fait Mehdi Barsaoui, le réalisateur, et qui a vu une métaphore des luttes identitaires et du besoin de reconnaissance. Donc une jeune femme unique, survivante d'un accident de bus, a fait croire à sa propre mort pour choisir son destin. Et c'était sa seule issue, sa seule possibilité. Elle l'a saisie. Donc les situations vont s'enchaîner pour Aya, devenue donc Aïcha, qui sera confrontée à la corruption, à la manipulation des citoyens, comme si la révolution n'avait été qu'un intermédiaire trompeur pour de faux espoirs d'améliorer la société. Le film pourra être ressenti comme un thriller, cependant le film ne fait aucune concession sur le fonctionnement de la justice et de la police et sur la place occupée par une minorité de privilégiés qui peuvent tout se permettre sans craindre le retour de bâton.
Très bien Alain. Tu en as encore à dire, semble-t-il, oui. Sur le film. Allez, rapidement, s'il te plaît, parce qu'on est déjà bien, bien, bien avancé.
Je voulais parler de l'actrice donc, qui joue le rôle d'Aya Aïcha. Donc, c'est Fadma Sfar. Elle livre une performance vraiment forte, intense, hein, un peu aussi comme le personnage de Anna. Ce sont des femmes avec un fort caractère. Et son personnage passe d'une jeune femme timide, soumise au début du film, et à une figure de rébellion et de résilience. À ses côtés, il y a Yasmine Dimassi et Nidal Saadi, incarnent des personnages secondaires qui viennent enrichir son périple entre rencontres bienveillantes et confrontations brutales. Et le réalisateur, connu pour son film Un fils, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui.
Mais qui avait été aussi... Enfin, moi, j'avais bien aimé ce film, aborde ici des thèmes profonds qui se déroulaient aussi en Tunisie, hein, aborde aussi ici des thèmes profonds tels que la quête de la liberté, la pression familiale et sociétale, ainsi que les conditions féminines dans un monde patriarcal. Et il y a des très belles scènes aussi, si vous allez voir le film, de relations entre la fille et le père. Donc à travers une réalisation à la fois sobre et percutante, il plonge le spectateur dans l'intimité d'Aya et confronté à ses dilemmes avec une justesse remarquable. Voilà, la critique souligne la capacité du film à allier un drame personnel à une réflexion sociale plus large, offrant ainsi un portrait poignant d'une jeunesse en quête de sens et de liberté.
Fort bien, là. Moi, je propose qu'on change d'univers ou presque, même si on est parfois encore au bord de la Méditerranée, avec la musique d'un film que tout le monde a apprécié. Voilà pour la musique du Comte de Monte Cristo. Alain, je te redonne la parole pour quelques infos encore.
Alors oui, c'est un film que j'ai bien aimé, qui est un petit peu étrange parce que c'est à la fois, c'est un mélange de genres. Il y a à la fois du western, du gangster et du drame social. Et ce film, ça s'appelle Black Dog. C'est un film chinois, donc réalisé par Guan Yu. Il a été présenté en avant-première au Festival de Cannes donc l'année dernière et il a remporté le prix Un Certain Regard. Il est sorti début du mois de mars, le 5, et l'intrigue se déroule en 2008. Hein, ça date un peu à la veille des Jeux Olympiques de Pékin dans la ville du nord-ouest de la Chine en déclin. Et c'est dans le désert de Gobi, je crois, hein, pour donner une précision. Donc, c'est un ancien cascadeur et ex-détenu qui retourne dans sa vie natale après une décennie d'absence. Il est confronté à un environnement hostile et des menaces de la part des gangsters locaux. Lang est contraint, c'est le nom du personnage principal, est contraint de travailler pour les autorités en capturant des chiens errants. Et des chiens errants, et c'est ça qui est étonnant, dans un paysage de western, hein, en fait, c'est un paysage assez désertique. Il y a une ville moribonde qui a dû avoir un passé industriel, des mines peut-être, ou des choses comme ça, mais qui est complètement désertée. Mais il reste encore quelques centaines d'habitants, voilà, et beaucoup de chiens, des hordes de chiens, voilà, d'où l'inquiétude des autorités de capturer ces chiens. Et on va voir petit à petit cette relation qui s'installe entre cet ex-détenu, donc qui s'appelle Lang, et ce chien, et petit à petit, ils vont s'apprivoiser l'un et l'autre, on va dire. Le film explore les conséquences de la modernisation rapide sur les communautés rurales chinoises, mettant en lumière ceux qui ont été laissés pour compte durant le boom économique.
Intéressant donc.
Intéressant.
Moi, j'en profite pour parler de deux documentaires. Le premier s'intitule « Lumière ». Il sort le 19 mars, si mon souvenir est exact, il l'est, je crois. Il s'agit là d'exhumer des trésors filmés, bien sûr, par les frères Lumière. On connaît la sortie de l'usine, mais il y a d'autres choses extrêmement intéressantes. Si mon souvenir est exact, et il l'est encore une fois de plus, il y a plus de 120 petits bouts de films comme ça qui sont proposés. Autre documentaire plus musical, celui-ci, c'est celui consacré à Hans Zimmer, qui a fait entre autres Le Pirate des Caraïbes et je ne sais combien de musiques que nous sommes tous capables de fredonner. J'ai vu le film, c'est un moment de plaisir intense. Alain, avais-tu autre chose à nous dire ? Oui, je crois.
C'était oui. Plus les films que j'ai aimé voir, mais c'est les films que j'ai pas aimé voir.
C'est ça, on est bien d'accord.
Donc, je raccourcirai ma liste.
Oui.
Et je voudrais parler d'Aimer perdre. Bon, j'ai pas accroché à ce film, mais ça, c'est propre peut-être à ma perception de ce style de cinématographique. Et Aimer perdre, en fait, il s'est perdu lui-même, je pense, de ce film. Aimer perdre échoue à captiver son public. Il est embourbé dans un scénario qui est prévisible, une mise en scène sans relief, malgré une thématique prometteuse. Le film souffre d'un manque cruel de réflexion. Ses personnages, pourtant en quête d'émotion, peinent à exister au-delà des dialogues artificiels et d'une mise en scène qui privilégie l'esthétique au détriment de la substance. Le rythme et la surenchère finissent par annihiler, toute sincérité, rendant le visionnage laborieux.
On n'ira pas, hein ?
Ouais, moi j'ai eu du mal d'aller jusqu'au bout.
Avais-tu un autre film que tu as détesté ?
Alors, je ne sais pas que j'ai détesté.
Que non, tu n'as pas aimé, alors le même
que
terme était
pas
fort.
Que je n'ai pas aimé, oui. C'est en fait une déception. C'est lire Lolita à Téhéran.
Ah oui.
Alors, il y avait Lolita, déjà. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai lu le bouquin et c'est un super livre qui m'a marqué. Et puis, il y avait Téhéran, parce que je suis fan des films iraniens. Et là, j'ai été un petit peu déçu parce que, en fait, on a un casting un peu hétéroclite jusqu'au réalisateur qui n'est pas iranien, qui est israélien, mais on a aussi des actrices iraniennes, hein, bien sûr, mais américaines, allemandes. Voilà, c'est une sorte de melting pot. Et je pense que ce film en a pâti. Et donc, il y a un manque évident d'émotion, d'adhésion au sujet. et on passe à côté des personnages, mais aussi des lectures qui sont abordées, qui sont traitées. L'histoire, en fait, rapidement, c'est après avoir démissionné de l'université de Téhéran sous la pression des autorités iraniennes. Donc, Azar Nafisi a réuni chez elle clandestinement pendant près de 2 ans 7 de ses étudiantes pour découvrir les grandes œuvres de la littérature occidentale. Donc, c'est quand même un sujet assez fort, assez aussi stressant, parce que c'est presque un acte illégal, hein, où elles se réunissent pour parler de Lolita et de Gaspi le Magnifique. Voilà. Voilà ce que je voulais en dire.
Très bien, on est arrivé au bout de l'émission, Alain.
Oui, alors, juste pour signaler qu'on a passé des musiques, et donc je voudrais donner juste le César de la musique originale a été donné à Emilia Pérez. Oui. C'est Clément Ducol et Camille. Et puis, la meilleure musique de film pour les Oscars, c'est The Brutalist qu'on a écouté tout à l'heure.
Et un petit mot peut-être sur l'événement qui aura lieu très prochainement au Singulier à Belleville.
Voilà, alors ça s'appelle, donc c'est du 2 au 15 avril, ça s'appelle les écrans du monde, parce que chaque année on fait un pays différent, et donc sous les écrans du monde, eh ben, il y aura donc un festival du film japonais.
Avec 4, 5 films
7, carrément.
7 films, c'est ce que je voulais dire.
Donc il y a des comédies, des drames, une animation et aussi un documentaire. Une avant-première. Donc les films, c'est La famille Asada, Tel père, tel fils de Hirokazu Koreeda, Les délices de Tokyo de Kawase, excusez-moi pour la prononciation, le film culte Akira, qui sera accompagné par donc un professeur du lycée Lumière à Lyon qui viendra nous le présenter. Il y a le Jardin Zen. L'avant-première, ça sera En boucle. C'est un film qui sortira qu'en juillet ou septembre. Et puis le documentaire, c'est Black Box Diaries.
Ok. Rendez-vous est pris pour le 2 avril donc à Belleville au Singulier.
Du 2 au 15. Ça ne sera pas que la seule animation, hein, j'en ai cité qu'une, mais il y a aussi un atelier sur la composition florale. Et il y aura aussi Benoît Letendre, qui est un intervenant qui fait beaucoup de présentations de films, qui était venu nous présenter la plus précieuse des marchandises. Voilà. Et qui viendra nous présenter et échanger avec le public sur Tel père, tel fils.
Fort bien. Alain, merci. Rodolphe, merci beaucoup. On a apprécié toutes ces informations et tout ton propos.
Merci.
Nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel acte de Kinopsis.
Et bonne séance.
Et vive le cinéma en salle.
Retrouvez votre émission Kinopsis en réécoute sur radio-calade.fr. Kinopsis. L'actualité du cinéma sur votre radio locale.